Bonjour, c'est avec un plaisir renouvelé que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont nous vous remercions bien sûr. Alors nous avons intitulé cette émission « Les courses de chevaux dans l'Antiquité ». Le calendrier nous y invite, Virginie, puisque le public pourra assister le week-end prochain sur l'hippodrome de Longchamp à Paris à une prestigieuse série de courses engageant les meilleurs pur-sang anglais et arabes du monde. Nos modernes jeux du cirque en quelque sorte.
Tout à fait.
Un bon départ pour remonter le temps qui nous ramènera aux origines des hippodromes, on pense à celui de Byzance, et au type de course qui y était organisée. Alors Virginie, ne serait-ce pas l'occasion rêvée d'emmener nos auditeurs à l'hippodrome, étymologiquement le lieu aménagé pour faire courir les chevaux. Quand on pense à hippodrome et aux hippodromes de l'Antiquité, on pense aux chevaux qui concouraient. Mais est-ce que l'on sait vraiment d'où ils viennent, ces braves chevaux ?
Alors, on sait que les courses existent depuis très très longtemps, puisque 1000 ans avant notre ère, on a trouvé des traces, notamment en Inde et dans tous les pays d'Asie centrale, Afghanistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, et c'est là d'où viennent ces chevaux.
Et ces courses sont-elles véritablement anciennes ?
Oui. Maintenant, c'est assez compliqué d'en trouver des traces précises, mais l'on sait, la première trace certaine de l'existence des courses de chevaux remonte aux Jeux Olympiques organisés vers 884 avant Jésus-Christ.
Ah oui, quand même.
Sous le règne du roi d'Élide, Hippitus ou Hippitos. Donc, il s'agissait de courses de chars et de chevaux.
Voilà, c'est cela, voilà. Alors, c'était des courses de chevaux attelées, j'imagine.
Les courses de chars, oui.
Voilà, bien sûr, voilà. Il existe quand même plusieurs types de chars. Ils ne sont pas tous pareils, hein.
Non.
Ne serait-ce qu'au nombre de chevaux qui sont attelés. Hein. Alors, est-ce que tu pourrais les décrire en quelques mots, ces chars ?
Alors, il y a donc plusieurs... Les chars sont conçus sur de la même manière.
Hein, le même schéma, oui.
Même schéma, une caisse, un timon. Ensuite, ce qui change, c'est le type des chars. Donc, les chars à 2 chevaux sont dits biges, à 3 chevaux sont dits triges et à 4 chevaux, quadriges. Ces dernières courses étant réservées à l'aristocratie, car naturellement, 4 chevaux, un char, c'est la demande des moyens, et donc seule l'aristocratie pouvait se permettre de tels équipages.
Pouvait financer, voilà, un plaisir comme cela, bien sûr. Alors, on va essayer de revenir un petit peu en arrière. L'existence des chars, en fait, est très ancienne. Ils sont présents en Mésopotamie depuis environ 6000 ans, et on les a trouvés sur des tablettes à Uruk. En revanche, on ne sait pas si ces chars étaient utilisés pour la guerre. Ça, on ne sait pas encore. En revanche, la transformation du char en véhicule de guerre est attestée vers 2800 avant notre ère, avec la découverte d'une peinture sur un vase découvert en Irak qui montre un char à 4 roues pleines, attelé à 4 équidés, et, bon alors on ne sait pas trop ce que c'est, et que montent 2 hommes armés de javelines. Donc c'est-à-dire que le char n'est plus un véhicule de transport, mais un véhicule de guerre en fait. On retrouve ce même type d'attelage représenté dans la ville antique sumérienne d'Ur, à l'embouchure de l'Euphrate. C'est toujours un char à 4 roues pleines, une caisse lourde sur laquelle est fixé un carquois rempli de javelines et monté par 2 hommes, donc respectivement le cocher et un combattant. Plus intéressant, ce char est attelé à 2 onagres. Tu sais, Virginie, les ânes de robe rouge des zones désertiques. Ils sont utilisés non pas à l'aide d'un mort, mais selon une technique toujours utilisée pour les dromadaires, un anneau passé dans leur cloison nasale. Il ne fait pas se régaler, ces animaux. Enfin, cet anneau est relié à des rennes. Enfin, vers le 2e siècle avant notre ère, les populations indo-européennes arrivent en Anatolie, comme tu viens de le dire, en Mésopotamie et jusqu'en Grèce. Les chars de ces nouveaux arrivants sont révolutionnaires. Alors là, la caisse est moins massive, donc beaucoup plus légère. C'est un char, cette fois-ci, à 2 roues, et dont les roues ont des rayons, c'est-à-dire ne sont pas des roues pleines. Et adieu les ânes, hein, on se sépare des ânes, et on voit sur les documents qu'ils sont tirés par 2 chevaux. Alors on va en revenir aux courses, si tu le veux bien. Il n'y avait pas une course unique, il y avait plutôt plusieurs types de courses de chevaux.
Oui, donc là on a parlé tout à l'heure des courses de chars, mais il y a également des courses de chevaux montés, qu'on appelle la course de chevaux de selle. Il y a également la course des poulains montés en selle par des jeunes gens, et ce qu'on appelle la calée, qui est une course pendant laquelle un cavalier à cheval accru, tenant en dextre un autre cheval, doit sauter de l'un à l'autre.
Oui, et ça c'est toujours dans les, quand on voit des spectacles de voltige, on voit toujours cette figure qui est faite, hein, et assez régulièrement, bien
oui,
sûr.
Oui, mais souvent dans les spectacles de voltige, on saute sur un autre cheval, le saut de cheval, on repasse pas sur le premier.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, une petite précision étymologique, calée, que tu viens de citer, la calée, vient du grec kélès, qui désigne aussi bien un cheval de selle, un coursier, un cavalier, aussi un petit vaisseau léger ou une chaloupe. Donc vraiment, le sens de calée est assez large. Alors sur ces courses, est-ce que tout le monde, enfin est-ce que les longueurs de parcours étaient uniques ou au contraire est-ce qu'il y avait des longueurs différentes peut-être en fonction des chevaux, je sais pas.
Alors ça dépendait des chars en fait. Les quadriges faisaient 12 fois le tour de l'hippodrome, soit 12 kilomètres. Les biges 8 tours. Ce qui correspond à 10 km, et les chevaux montés, un tour, soit 1,2 km. Là, nous avançons dans le temps, et les chevaux qui sont utilisés à cette époque-là proviennent toujours du Caucase, mais également d'Égypte, de Perse et d'Arabie.
Et on voit du reste aussi que le système des chars, et pour le coup des chars de combat, a été introduit par les Hittites en Égypte. Ce sont, dans le sens, les Égyptiens les connaissaient, mais ils s'en servaient pas tellement pour le combat. Hein. C'était pas, voilà, c'était plutôt pour promener le pharaon, voilà, c'est ça.
Et c'est, la chasse est très importante.
Et les chasses, évidemment, très très importantes. Alors, les courses de chevaux nous paraissent une invention des Romains. Et en fait, est-ce qu'ils ne l'auraient pas emprunté aux Étrusques, et justement Tite-Live peut-être en parle un peu.
Oui, Tite-Live rappelle que c'est sous le règne de l'empereur Tarquin que l'on délimita pour la première
qui
fois...
Qui était un Étrusque,
que l'on délimita pour la première fois un terrain appelé Circus Maximus, hein, le grand cirque, sur lequel se déroula la première course de chars tirée par deux chevaux en ligne droite avec retour.
Et est-ce qu'on a un peu ce premier Circus Maximus, est-ce qu'on en a un peu les dimensions pour se faire une idée?
Alors il n'a jamais cessé d'évoluer avec l'engouement donc des Romains pour le cirque et des différents empereurs. Donc il a été remanié au cours du temps. Donc il mesurait à sa plus grande capacité, on dira 650 km de long sur 160
km. Non.
Mètres de long sur 170 de large. Et il pouvait accueillir plus de 300 000 spectateurs. Donc nos stades peuvent bien se tenir.
Absolument. Je crois qu'à Rome, il y avait toujours des courses de chevaux. Hein. On parle de...
Oui, les chevaux devaient accomplir un nombre de tours de piste de 7.
D'accord.
Comme les 7 jours de la semaine.
Comme les 7 jours de la semaine, absolument. Et alors, pour en revenir justement à cette tradition de course de chevaux étrusque, quand l'empereur romain donnait le signal du départ d'une course, il laissait tomber sur la piste, tout le monde a vu ça, une serviette blanche, ça on a vu ça dans les films, hein, voilà, et qui s'appelle la mappa, avec deux P, et qui est un mot punique en fait, c'est-à-dire carthaginois. Donc on voit bien qu'il y a une filiation qui est assez... puisque même des mots sont repris. Les courses de chevaux font également partie des jeux du cirque.
Oui, les riches romains ont leur ara, leurs chevaux, leur entraîneur et leur jockey. Et la grande différence des Grecs, eux luttent pour la gloire, ce qui n'était pas le cas des Grecs. Les récompenses que recevaient les auriges, c'est-à-dire les cochers, étaient considérables et les paris énormes. Donc il faut bien penser que les Grecs luttaient pour le prestige et les Romains pour l'argent.
Les Romains pour l'argent.
Pour la récompense financière.
Alors nous allons nous accorder une pause musicale avec une chanson, enfin je sais pas, un air plus exactement, qui a été attribué à l'empereur Léo VI, donc un empereur grec, qui parle de Hélène, la mère de Constantin, est à Jérusalem.
Mise en musique par Jordi Savall.
Mise en musique bien sûr par Jordi Savall et toute son équipe. Alors, tout ce qu'on vient de voir, Virginie, c'est quand même un sport dangereux de faire des courses de chars. Hein.
Ah oui, c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que les origes, les jockeys de l'Antiquité, au départ, sont soit des esclaves, soit des affranchis, qui ont tout intérêt à pratiquer cette activité qui peut leur permettre, s'ils sont esclaves, de s'affranchir, et s'ils sont affranchis, d'obtenir un certain prestige. Donc, car effectivement, certains sont devenus de véritables vedettes, extrêmement bien payées. Il existe des textes qui compte le nombre de courses courues par tel jockey avec tel chevaux, etc., et touchant des sommes absolument astronomiques.
Absolument. Donc, c'était vraiment un ascenseur social, comme on dirait maintenant, mais à la vitesse d'une fusée Ariane, quoi.
Voilà. Bon, tout en sachant quand même que les Romains traitaient les esclaves et les affranchis avec quand même un petit peu de mépris.
Les affranchis avec du mépris, les esclaves avec un mépris quasiment complet, évidemment. Les affranchis, c'était quand même un petit peu au-dessus. Donc, sport dangereux. Hein, ça, on le voit. Mais sur cet hippodrome qui a quand même une forme un peu en aiguille de cheveux, si tu veux, on peut imaginer qu'il y avait des endroits qui étaient quand même beaucoup plus difficiles à négocier que d'autres, puisqu'on voit que ce sont des lignes droites, mais il y a des tournants qui sont très, très, très serrés, en fait.
Tout à fait, parce que ces tournants se prennent autour de bornes en pierre qui sont à chaque extrémité. Donc, c'est là que se trouve l'endroit le plus dangereux, car pour doubler, en perdant le moins de terrain possible, il faut frôler ces bornes en pierre. Ainsi, on le sait, on est à la corde et on ne laisse pas la place aux concurrents pour doubler. Mais il est bien évident que si on frôle cette borne en pierre et que le char vient à tomber, les suivants viennent s'écraser sur lui.
Oui, ils ne peuvent pas l'éviter.
Ils ne peuvent pas l'éviter.
Absolument, oui. Alors ça, par contre, on le voit bien dans le film Ben-Hur. Hein, je veux dire, là, on voit des accidents absolument épouvantables.
Alors, il faut savoir que les origes possédaient un couteau. Très souvent, les rênes étaient attachées à la taille. Ils utilisaient un fouet pour stimuler les chevaux. Et donc, ce couteau leur permettait, en cas, justement, d'accident, de couper les rênes en cuir attachées à la taille et d'espérer ainsi sauter avant de se faire écraser par les concurrents,
absolument. Est-ce qu'il y avait plusieurs techniques d'attelage qui étaient utilisées?
Alors, déjà, on mettait le meilleur cheval à gauche. Le plus rapide, le mieux dressé, et donc c'est lui qui mène l'attelage. Ensuite, les chevaux étaient toujours attelés de front, jamais en flèche. Les chevaux du milieu avaient le cou passé sous un joug, de manière à ce que le conducteur n'ait qu'à conduire les chevaux de côté. Surtout celui de gauche, hein, car comme je le redis, c'était le meilleur cheval, et c'est de lui dont dépendait pratiquement uniquement la victoire.
Est-ce qu'ils étaient habillés d'une certaine façon? Est-ce qu'il y avait, un espèce d'uniforme pour l'orige?
Alors l'orige est vêtu d'une tunique courte sans manches, aux couleurs de sa faction.
Ah, ça, retenons. Il faut bien retenir le mot faction.
Il conduit debout sur son char. Hein. Comme je l'ai dit, donc les rênes attachées à la ceinture. Et voilà, littéralement, sa position pendant toute la course. Hein.
Alors, il faut savoir que la piste se parcourait de droite à gauche.
Tout à fait.
Par rapport à un spectateur placé au Carcérès. Alors, Quesaco Carcérès. Donc, alors, tu viens de le dire, les cochers tournaient dans les bornes en tournant à gauche, dans ce sens-là, voilà. À l'inverse des aiguilles d'une montre. Alors, Carcérès, Quesaco, eh bien, ça vient encore du latin. Et en fait, c'est un enclos. Il y a plusieurs notions, mais qui sont un petit peu toutes de la même famille. Donc, un enclos, des barrières qui délimitent la piste des chars, ou encore les stalles de départ dans lesquelles les chevaux sont enfermés sur la ligne de départ. Et enfin, la prison. On parle toujours d'une personne incarcérée. Voilà, donc on voit bien. Alors, tu l'as dit aussi, on mettait le meilleur cheval, le plus rapide et le mieux dressé à gauche, car en fait, c'était lui qui menait tout l'attelage. Et effectivement, comme il tournait à gauche, il fallait... donc c'est lui qui pouvait se déporter vers les fameuses bornes et puis, s'accidenter, quoi, voilà. Alors, ils étaient toujours attelés de la même façon, c'est-à-dire on voit toujours classiquement les quatre chevaux les uns à côté des autres. Alors, en deux mots, quel était le programme d'une journée type de course, voilà?
Alors, les courses durent toute la journée. avec quatre
toute la journée.
Toute la journée avec quatre interruptions, la principale étant vers midi. Et il faut savoir que leur notoriété grandissant, à l'époque de Néron, il y avait jusqu'à 24 courses par jour.
24 courses par jour, donc Néron, donc qui a régné au milieu du premier siècle de notre ère, voilà. Donc on est encore bien dans le passé. Et alors, certains chevaux ont connu une célébrité absolument invraisemblable.
Oui, parce que comme je le disais, là, il y a un engouement tel. On a vu, il y a un engouement pour les origes, mais il y a un engouement pour les chevaux. Et certainement l'exemple le plus connu est celui de Incitatus, hein, cheval star des courses de chars appartenant à l'empereur Caligula, qui avait une écurie en marbre, des mangeoires en or, des couvertures couvertes de broderies. Et Caligula l'a même jusqu'à envisager de le nommer consul.
Oui, il a envisagé de le nommer consul. Ça aurait peut-être été un très bon consul. Bon, et alors, Incitatus, c'est un beau nom pour un cheval, Virginie, puisqu'en latin, cet adjectif signifie lancé au galop, vif, rapide, à toute bride. Donc c'est vraiment la Formule 1, quoi, c'est Incitatus. Alors, les courses de chars, on l'a un petit peu évoqué rapidement, comme le foot avait ses aficionados, je crois.
Ah oui, ils sont fous, ils sont hystériques. Hein. Ils s'arrachent les programmes avec annonçant les courses dans la journée, qui court, les chevaux qui courent, les cochers. C'est vraiment le peuple, comme l'aristocratie, est fasciné par les courses de chevaux. Et tous les historiens qui ont travaillé sur ces périodes ont dit nos aficionados du football sont probablement ceux qui se rapprochent le plus de l'ambiance qu'on connaissait à l'époque à Rome ou à Byzance. Donc voilà, cet engouement pour les courses est traduit par ce qu'on appelle les factions, donc dont tu as parlé. Le peuple se partage en factions, les blancs avec les bleus, l'aristocratie d'une part, les rouges avec les verts, le peuple de l'autre. Et il y a des rivalités très importantes entre chacune.
Alors justement, l'histoire a retenu une de ces séditions qui fut particulièrement violente et qui a pris le nom de sédition Nika. On verra pourquoi Nika. Contrairement à Rome qui avait été construite au cours des siècles sans plan bien défini, Byzance à l'inverse se développe en suivant un schéma urbanistique très rationnel. La ville est coupée en quatre quartiers, les démesses. Chacun de ces quartiers accueille des populations sociologiquement et économiquement très différentes. Voilà. Nous sommes le 11 janvier 532. Une série de courses de chars est organisée dans l'hippodrome en présence de l'empereur Justinien et de son épouse Théodora. Le couple impérial, assez logiquement, soutient la faction des aristocrates, les bleus, comme tu viens de le dire, au détriment de la faction des verts qui regroupe ce que nous appellerions aujourd'hui la classe moyenne aisée, que sont les marchands, les artisans, les joailliers. Il faut voir ces factions comme de véritables partis politiques qui disposent de leurs propres milices avec lesquelles le pouvoir impérial doit composer. Et il faut ajouter aussi à cela que Byzance vit à ce moment-là une crise théologique profonde qui divise la population des différents démesses. En fait, personne n'est d'accord avec personne. C'est ainsi que le 11 janvier 532, à l'hippodrome, la faction des Verts insulte le couple impérial. C'est le début d'une répression féroce ordonnée par l'empereur Justinien. Non seulement les chefs et les meneurs des Verts sont exécutés, mais dans une sorte de folie collective, les soldats massacrent aussi les factions de Bleus, le soutien traditionnel évidemment de l'empereur, puis c'était les factions aristocratiques. La réaction ne se fait pas attendre, les Verts et les Bleus font cause commune et somment Justinien de les amnistier, ce dernier refuse. Les insurgés se dirigent alors vers le palais impérial au cri de Nike, on avait vu tout la sédition Nika, donc Nike qui signifie victoire en grec. Athéna Nike, Athéna de la victoire, la force. Les assaillants incendient les entrepôts impériaux, les casernes, les soldats de la garde impériale envoyés, les stoppés sont massacrés ainsi que les fonctionnaires qui administrent l'empire. Le 14 janvier, trois jours après le début de l'insurrection, l'empereur cède aux insurgés, mais il n'est pas entendu car le lendemain, la basilique Sainte-Sophie, le Sénat et même le palais impérial sont en flammes. Alors Bélisaire, dit l'histoire, un général qui rentre opportunément d'une campagne militaire contre les Perses, entouré de ses auxiliaires germains, prend les choses en main. Il encercle l'hippodrome dans lequel les factieux se sont réfugiés. Le massacre est effrayant puisque les textes de l'époque évoquent le chiffre ahurissant de 30 à 80 000 rebelles massacrés. le pouvoir impérial retiendra la leçon et contrôlera désormais de façon très stricte les différentes factions des quatre démesses. Nous terminons sur cette histoire sanglante. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr un grand bravo à tous les chevaux de tous les pays. Ciao, ciao.